Bonjour chers amis, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons étudier Daf Kouf Dalet, la page 104 du traité Baba Metzia. Nous nous trouvons à la cinquième ligne de la page, là où il y a les deux points, cinquième ligne de la page. La Gemara elle ramène un enseignement qui avait été dit dans la Mishnah. Imamarlo hakor li sadeh bet ashlachin ze vechule. Alors, comme on avait vu que si quelqu'un il voulait travailler dans un champ, donc soit pour en payant un prix fixe, soit pour payer un, soit il devait, il prend un pourcentage, il donne un pourcentage pour le propriétaire. Et il a vu que c'était un champ où il y avait des arbres, donc il se dit ouais, je vais recevoir, je vais manger des fruits sans beaucoup me fatiguer. Ou alors un champ où il y avait une source, ou alors un puits, un endroit, un canal, là où il pouvait se puiser de l'eau facilement. Et il s'est dit bah ça va arriver facilement. Et au final, ça c'est le puits, il s'est asséché, ou alors l'arbre, il a été coupé, il était cassé, il s'est abîmé, il donne plus de fruits. Celui qui travaille dans le champ ne peut pas réclamer et dire qu'il va moins payer au propriétaire du champ. Par contre, si au moment où ils ont convenu, ils lui ont dit que je vais travailler dans un tel champ, dans un bet ashlachin zé, dans ce champ-là où il y a une source, ou ce champ-là où il y a un arbre, alors dans ce cas-là, si après l'arbre il n'est plus là ou la source n'est plus là, eh ben il peut déduire de l'argent qu'il doit donner au propriétaire. Et demande la Gemara Ve'amai. Pourquoi? On se trouve maintenant à la sixième ligne de la page, aux deux points encore. Ve'amai demande la Gemara, pourquoi? Limale Shma Be'alma Amrei Lecha. Même si le propriétaire du terrain il a dit à celui qui va travailler, voilà, je te donne un champ qui a une source ou un champ qui a un arbre. Il peut lui dire, moi je t'ai dit un simple nom. C'est-à-dire, puisque ça s'appelle comme ça, c'était le nom. Comment il s'appelle? Le champ, il s'appelle un champ qui a un arbre, un champ qui a une source. Mais c'est pas que je me suis engagé que tu travailles que dans un champ qui a un arbre ou un champ qui a une source. Comme on a vu d'autres endroits, que quand l'habitude c'est de nommer quelque chose d'une certaine façon, on peut dire, voilà, moi je pensais le dire, d'utiliser juste la nomination. Mais je voulais pas dire vraiment ce que ça se comprend, on va voir tout de suite. Milotania, est-ce qu'on n'a pas enseigné de la Braïta? Ha Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, Bet Kour Afar ani mocher lecha. Je te vends Bet Kour Afar. Alors c'est un champ, normalement si on comprend ce qu'il y a écrit, un champ qui peut contenir un cours. Un cours, c'est une quantité, c'est une grande quantité. Donc un champ où on peut là-bas semer une quantité telle de récolte. Un cours de récolte. Même si en réalité c'est un champ qui est plus petit, quand même la vente elle marche. Chez l'Omachar, à condition, comme on va voir après, que les gens ils l'appellent ce champ-là un champ de bête court. Ils l'appellent comme c'est un champ de bête court, soit parce que les gens ils se disent c'est un champ même qui a des rochers au milieu, mais eux ils appellent de manière générale tout champ qui a une certaine taille. Un bet court, même si on ne peut pas planter vraiment un bet court dedans, à une telle quantité, ou alors que c'est un champ qui est de bonne qualité, comme ça, il y a des rishonim qui expliquent. Afalpi, shen bo el aleter, higio. Même si on ne peut planter là-bas que semer que l'éther, c'est un demi-cours, même si on peut planter qu'un demi-cours, semer qu'un demi-cours, higio, la vente, elle marche. Chez l'omacharlo, et l'achma, car il lui a vendu juste le nom. Quand il lui parlait, quand il lui a mentionné un nom, c'est le nom normal. Verou demit carré, bête court. Et à condition que ça s'appelle bête court. C'est à condition que les gens, ils appellent ça bête court. On continue. Karma ani mocher lecha, il lui a dit, je te vends un vignoble. Afalpi shen bo gefani, même s'il n'y a pas de vigne là-bas. Higio, la vente, elle marche. Shelo macharlo et la shma. Car il lui a vendu que, avec le nom, ça veut dire un endroit qui s'appelle vraiment comme ça. Bien entendu, Vihu Demit Carré Karma, à condition que les gens dans la région, dans l'endroit, on appelle ça un vignoble. Soit parce qu'il y a déjà les poteaux pour préparer un vignoble. Même s'il n'y a pas vraiment les vignes, mais il y a déjà la préparation, les gens, ils appellent ça un vignoble. Et ben, ici, il a dit, je te vends un vignoble, c'est un vignoble. Pardes animocher lecha, il lui dit, je te vends un verger. Alors, ils avaient, en général, quand ils parlaient de verger, c'était un verger où il y a des grenades. Même s'il n'y a pas de grenades ici. Afalpi, chez En Borimoni, même s'il n'y a pas de grenade, Igio, la vente, elle marche, chez l'Omacharlo, et la Shma, car il lui a vendu juste le nom, mais où des mille carrés par des ça, bien sûr, à condition que ça s'appelle vraiment un verger. En tout cas, dit Agmara, de toute cette braïta, on peut amener une preuve. Alma, Amarle, Shma be Alma, Amrelecha. Donc on voit qu'il peut lui dire, moi je t'ai dit, je te vends un nom en général, genre, ce qui est appelé de cette façon. Hachanami, ici aussi. Nimale, shma be'alma amredecha. Ici aussi, le propriétaire du champ, il peut dire, voilà, oh moi, quand je t'ai dit que je vais te donner un champ où il y a un arbre, c'est comme ça qu'il est appelé, c'est un champ où il y a un arbre. Même si après, il va se casser, oui, c'est cassé entre toi, mais on l'appelle de cette façon. Amar Shmuel dit Shmuel, l'okasha, ce n'est pas une question. Hade amarle, markir la choker. Hade amarle, choker la markir. Ça dépend, c'est qui a parlé. Si c'est le propriétaire du champ qui a dit au choker, à celui qui allait travailler dans le champ, ça c'est un cas. Et là, il pourra lui dire, on va voir après, il pourra lui dire, c'est juste le nom que je voulais te dire, juste ça s'appelle comme ça, mais pas que je m'engage à te donner un champ où il y a un arbre ou alors il y a une source. Mais Hade amarle, choker ne markir. Et là, on a dit que oui, il faudra être, il pourra changer d'avis. Donc, ce que la Mishnah elle a parlé, on parle que c'est celui qui va travailler dans le champ qui a dit au propriétaire du champ. Et donc là, on explique tout de suite. Amarle, markir la choker. Si c'est le propriétaire du champ qui a dit au choker à celui qui va travailler dans le champ, shma be'alma, amarle. Il a voulu dire, je lui donne un nom, de manière générale. Si le propriétaire du champ, lui, il parle, il dit, voilà, je te donne un champ comme ça, il lui a dit le nom du champ. Par contre, Amar les Choker, la Markir, si c'est celui qui travaille dans le champ qui a dit au propriétaire du champ, voilà, moi je travaille, donne-moi à travailler dans un champ qui a un arbre. Ce qui veut dire, c'est pas simplement un champ où il y a un arbre. Il ne dit pas juste le nom qui s'appelle un champ où il y a un arbre. Un champ où il y a un arbre. Kpida, dans ce cas-là, c'est vraiment qu'il veut que ça soit, il est pointilleux, que ça se passe de cette façon comme il a dit. Ravina Amar, par contre, Ravina, il répond autrement. Idi de Amar les Markir les Choker. Dans tous les cas, on parle que c'est le propriétaire du champ qui a dit à celui qui travaille dans le champ. Et des fois, même dans ce cas-là, quand le propriétaire du champ il parle, ça peut être des fois, ça peut se comprendre qu'il dit que ça se fera que s'il y a un arbre, que s'il y a une source. Comme c'est le cas de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, il lui a dit, on parle qu'il lui a dit ce champ-là. Donc ça veut dire qu'il se trouvait à côté du champ. S'il se trouve à côté du champ, pourquoi il a besoin de lui dire ce champ-là où il y a une source? C'est pas besoin. Si c'est simplement pour le nommer, il est là le champ, on est ce champ-là, ça suffit. Pourquoi dire ce champ-là qui a une source? Ah, c'est pour dire, pour bien préciser que l'obligation, nous on a convenu sur un champ où il y a une source. Si la source n'est plus là, effectivement tu n'es pas obligé de me donner ce qui est convenu. Regardons-nous les mots. Mideka amar ze, puisqu'il lui a dit celui-ci. Miklal deka ebegava, c'est-à-dire qu'il se trouve à côté. Askinan, de ça on parle. Et donc, Bet Ashlachin la malele memar. Pourquoi il a besoin de préciser, tu vas travailler dans mon champ, de Bet Ashlachin, un champ où il y a une source. Voilà, ce champ-là, on n'a pas besoin de préciser. Ah, Deka Amarle, Bet Ashlachin, ke Deka Imahashta. Seulement ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire ce champ-là où il y a une source, comme il est maintenant. Et autrement, effectivement, celui qui travaille dans le champ n'aura pas besoin de payer tellement au propriétaire. Dit la Gemara, dit la Mishnah. Hamekabel, Sadeh, Mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami. Donc on parle de quelqu'un qui reçoit un champ pour travailler dans le champ. Il a prévu, voilà, moi je travaille dans ton champ, je recevrai on va recevoir un pourcentage pour toi, un pourcentage pour moi. Et voilà que celui qui devait travailler dans le champ n'a rien fait. Donc le propriétaire du champ, hein, il a perdu toute l'année, il a attendu toute l'année, et il voit qu'il n'y a personne qui a travaillé dans le champ, il reçoit rien puisqu'ils ont prévu un pourcentage. Celui qui a reçu un champ de son ami pour travailler et recevoir, non, métailler pour recevoir un pourcentage et donner un pourcentage au propriétaire, Vehovira, et il n'a rien fait, il l'a laissé sans rien faire. Shaminota Kamaruyala Asot. On regarde combien ce champ-là il aurait dû donner de récolte. Menotenlo, et il lui donne, bien sûr, il lui donne le pourcentage de ce qu'il aurait dû recevoir. Shekar Kotevlo, car ainsi il lui écrit, Im Ovir Velo Evid, et Shalem Bemetva. Si je vais laisser le champ sans rien faire et ne pas bore, ça veut dire le laisser tout vide et ne rien faire comme travaux, alors je paierai avec le meilleur de mes champs, avec le meilleur de la meilleure façon. Point. Maintenant, la Guimara, elle va ramener. Donc là, on vient de voir dans notre Mishnah et on va voir que notre Mishnah, comme il y a une Braïta qui dit, c'est l'enseignement de Rabbi Meir. La Guimara, elle va ramener plusieurs Tanaïm. Qui pensent, Tanaïm, ce sont les auteurs de la Mishnah ou de la Braïta, plusieurs Tanaïm qui pensent que quand il y a des noms, plusieurs Tanaïm qui pensent que quand il y a des textes qu'on a l'habitude d'écrire, que les gens ont l'habitude d'écrire d'une certaine façon, Ça devient maintenant, ça engage tout le monde de cette façon. C'est l'engagement normal. On tranche la loi selon ce que les gens, ils ont pris l'habitude d'écrire. Ce qu'on appelle lachon idiot. Le langage des gens, des gens idiots, ce sont des gens simples. Donc on ne parle pas des, pas une institution des sages, mais le langage des gens de manière générale, comme il y a ce qui est pour le temple et il y a ce qui n'est pas pour le temple, c'est idiot. Simple, c'est-à-dire on ne parle pas de, pas qui est kodesh et gdesh. Alors là aussi, on dit le langage parlé, le langage courant, ce que les gens ils ont l'habitude de faire, ça engage et comme ça on peut trancher. On va voir plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est notre Mishnah. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y a écrit, puisque l'habitude c'est d'écrire dans le contrat de métayer, on écrit que si le métayer il dit que s'il va pas travailler dans le champ, alors il va payer, il va s'engager, donc ça engage tout de suite à lui payer. C'est normal qu'il doit lui payer. Puisque c'est comme ça l'habitude qu'on écrit. Dis la Guémara. Rabbi Meir aya doresh lachon idiot. Rabbi Meir, lui, comme on vient d'expliquer, il utilisait le langage courant pour trancher. D'Etania, comme il y a la Braïta qui dit. La Braïta, elle dit la même chose que notre Mishnah, mais elle ramène que c'est Rabbi Meir qui a enseigné. D'Etania, comme il y a la Braïta qui dit. Rabbi Meir omer, Rabbi Meir dit. Imovir velo evid eshalem be mitva. Que le métayer, il disait, si je vais travailler, si je vais laisser le champ vide sans travailler, je paierai de la meilleure manière. Point. Rabbi Yehuda yadoresh lachon idiot. Rabbi Yehuda aussi, on a trouvé qu'il tranchait selon ce que les gens ils avaient l'habitude d'écrire. Détania, comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Adam mevi korban ashir al ishto, vechen kol korban, ou korban shei chayevet. Un homme. Il amène un sacrifice de riche pour sa femme, et ainsi tout sacrifice qu'elle doit amener. Alors de quoi s'agit-il d'abord la première phrase? Un homme amène un sacrifice de riche pour sa femme. Quand sa femme elle a une raison d'amener un sacrifice, il y a certains sacrifices que ça dépend du statut financier de la personne. Que s'il est riche, pas riche, pauvre. S'il est pauvre, ou alors il doit amener un certain sacrifice, très pauvre un autre. S'il est riche, un autre. Dans ce cas-là. Si la femme, elle n'a rien à elle, le mari pourrait dire, c'est le mari qui doit amener les sacrifices de sa femme. Il pourrait dire, comme elle, elle est considérée qu'elle est pauvre, moi j'amène un sacrifice aux pauvres, même si le mari, lui, il est riche, il pourrait dire, mais moi j'amène comme elle, elle ne possède rien à elle, alors j'amènerai un sacrifice de pauvre. Non, non, non. Lui, il doit amener un sacrifice, comme c'est lui qui l'amène, il doit amener un sacrifice, si lui, il est riche, un sacrifice de riche. À part ça, il faut qu'il doit amener tous les sacrifices qu'elle devait amener, même les sacrifices qu'elle s'était engagée, pas qu'elle s'était engagée, mais qu'elle devait amener, les sacrifices qu'une femme s'engage, elle ne doit pas amener, comme dit Rashi, même les sacrifices qu'elle devait déjà amener, qu'elle avait eu l'obligation de les amener avant qu'elle se marie, le mari, il doit les amener. Là, je dis l'explication d'après le Tosfot. De manière générale, quand on lit l'explication, quand on explique la Guimara, je ne le dis pas à chaque fois, puisque c'est près toute la Guimara comme ça va comme Rashi. On avait dit quelques fois au début des traités, ça dépend, mais ça va comme Rashi. Par contre, ici, ça ne va pas. Quand ça change, quand c'est pas Rashi qui dit, on essaye de préciser si c'est quelqu'un d'autre, Tosfot, ou alors d'autres commentateurs. Là, c'est Tosfot qui explique de cette façon. Rashi, il a une autre version. Donc, Vechen kol korban ve korban shi chayevet, ainsi, tout sacrifice et sacrifice que la femme doit amener, shekar kotevla, car ainsi, lorsqu'il se marie avec la femme, il lui écrit, Acharayut de Hitler, toutes les obligations que tu as, comme ça le mari il écrit à la femme quand il se marie avec elle, Alai, ils sont sur moi, toutes les obligations, donc tous les sacrifices que tu dois amener, c'est moi qui les amènera. Min kodam tadana, depuis toujours, depuis d'avant. Point. Derek m'a encore un autre exemple d'un Tana qui est enseigné, qui utilisait le langage qui est parlé pour trancher la loi. Il a la zaken ayadoresh lachon idiot, il a la zaken, il l'enseignait, il utilisait un langage. Il tranchait selon le langage qui était utilisé dans les textes, qui était écrit que les gens utilisaient dans les textes. D'Etania, comme il y a une braïta qui dit Anche Alexandria hayu mekachin et neshotehen. Alors, les gens de la ville de Alexandrie, ils mariaient leurs femmes. On rappelle qu'à l'époque, il y a deux étapes dans le mariage. Pas à l'époque, toujours, il y a deux étapes dans le mariage. Il y a ce qu'on appelle les kiddushin, ce qu'on peut dire, nous, la première étape du mariage, quand par exemple le mari donne la bague à sa femme. Et il y a encore d'autres façons de le faire. Et il y a les nisouin. Nisouin quand la femme, elle va chez le mari, elle va vivre chez le mari. Ça peut se passer, soit il y en a qui disent des avis qui disent la roupa elle-même, ce qu'on appelle la roupa. Il y en a qui disent la roupa, parce qu'on connaît les quatre, les quatre poteaux avec au-dessus la roupa. Et, ou alors ça peut être aussi le. Il y en a qui disent le fait de quand ils vont, la première fois, quand ils se retrouvent tout seuls dans une pièce, dès que ils vivent ensemble, ça c'est la deuxième étape du mariage. Dès la première étape, la femme elle est considérée déjà mariée. Dès qu'elle a reçu une bague, elle est considérée une femme mariée. Et après, et sur quelques lois, ça peut changer. Et après, il y a la deuxième étape. Maintenant, à l'époque, souvent, il y avait une grande période entre la première étape et la deuxième étape. De nos jours, ça se fait le même jour. Mais à l'époque, ça se faisait une grande période entre, même peut-être des fois jusqu'à 12 mois, entre le moment où ils se mariaient, première étape du mariage, elle était considérée une femme mariée. Et la deuxième étape, où elle allait habiter chez son mari. Alors, dit la Gemara. Il y a une Braïta qui dit que à Alexandrie, ils mariaient leur femme à Mekatchin, c'est la première étape de mariage. Au Béchat, Knissatan la Choupa. Et lorsqu'elle devait, après, quelques temps plus tard, à se marier et aller habiter chez leur mari, Baïn Achirim Bechotfin Motam. Il y avait des Réchaïm qui venaient et qui prenaient ces femmes-là. Bechotfin Motam Mehem. Ils les prenaient, ces femmes. Et ils empêchaient de se marier avec leur mari, enfin peut-être se marier après, mais ils abusaient d'elle. Bikur Rahamim la Sod Benehem Mamzerim. Et ça, ils ont voulu dire que les enfants de ces unions-là seront Mamzerim, seront considérés des bâtards, puisque c'était des femmes mariées. Amar Lahen, Hillel Hazaken. Sur ce, Hillel Hazaken leur a dit, aux enfants, il leur a dit, Haviu lik tuvat imechem. Amenez-moi l'aktuva, que le jour du mariage, de la première étape du mariage, ce qu'ils avaient l'habitude d'écrire comme tuva. Et vu Oulo, ils lui ont amené ktuvat iman, l'aktuva de leur mère. Donc, amener l'aktuva que la maman, de la maman, cette femme-là qui a après été abusée, comment c'était écrit là-bas? On lui a amené. Et il a vu que c'était écrit dessus. Le mari disait à sa femme, l'homme disait à la femme, tu vas aller dans la choupa, alors tu seras marié avec moi. Et donc, comme s'il disait, il écrivait que c'était un mariage sous condition, quoi. Que le mariage ne marchera que s'il va arriver sous la choupa. Non, qui marcheront que quand après la roupa, quand il y aura la roupa, alors le mariage marchera. Et donc il a voulu dire que et donc comme ça, il a dit que le mariage, pour ce qui était le premier mariage, n'était pas un mariage, il s'est avéré, et les enfants n'étaient pas considérés mamzerim, qui n'étaient pas bâtards. Point. Encore un autre avis qui utilisait le langage parlé pour trancher. Rabbi Yoshua ben Kocha, Yadoresh Lashon Idiot. Rabbi Yoshua ben Kocha, il utilisait le trancher selon ce que les gens ils avaient l'habitude d'écrire. Netanya, quand il y a une braïta qui dit, Rabbi Yoshua ben Kocha, Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit, Hamalve et Chavero, lo imashkenu yoter mechovo. Celui qui prête de l'argent à son ami, et voilà qu'au moment du remboursement, son ami n'a pas de quoi rembourser. Il y a le propriétaire et le juge. Rabbinique, ou alors il envoie quelqu'un, un émissaire du tribunal qui va et qui va chez l'emprunteur pour lui prendre un objet en tant que gage que bientôt il va rembourser au moins. Il faut pas prendre un gage qui coûte plus cher que la dette. Pourquoi? Parce que des fois, le prêteur rend à l'emprunteur l'objet. Il lui rend l'objet. Pour quelque temps, il lui dit, je te rends l'objet, mais tu m'écris un contrat comme quoi cet objet, tu me l'as. Il était chez moi, je l'avais pris en tant que gage et je te l'ai rendu un petit peu. Et il a l'habitude, en général, l'emprunteur écrit à ce moment-là au prêteur. Chez Karkotevlo, ainsi il lui écrit, Tashumta deit lecha alai kol kabal dehi. Le remboursement que tu as le droit de recevoir de moi, c'est contre cette chose-là, contre le gage. Donc si maintenant le gage coûte plus cher que la dette, c'est comme s'il lui a écrit maintenant qu'il y aura un remboursement, qu'il lui doit une valeur plus que ce qu'il lui doit en réalité. Point. Maintenant, la Gemara, elle a compris que pourquoi il fallait écrire ce contrat-là et ce remboursement, que le remboursement il se fait contre ce gage-là. Grâce à ça, si l'emprunteur il va mourir, alors le prêteur pourra récupérer cet objet-là. En général, quand un emprunteur il décède, le prêteur ne peut pas prendre des biens mobiles des héritiers. Mais par contre, ce bien mobile, puisqu'on en a écrit, puisque c'était un gage et on a écrit que c'était en tant que gage après, alors le prêteur pourra le récupérer des héritiers de l'emprunteur. Sur ce diagmara, on n'a pas besoin d'écrire pour que le prêteur puisse récupérer des héritiers. Dit la Gemara, Tama de katavle hari, ha ilo katavle hari lo kanya. Quoi? La raison, comme ça la Gemara a compris maintenant que c'était ça, pour ça on écrivait. La raison pour laquelle si l'enfant il va mourir, si l'emprunteur il va mourir, alors l'enfant il pourra recevoir le prêteur pourra récupérer des enfants de l'emprunteur, c'est parce qu'il lui a écrit une telle phrase. Mais autrement, le prêteur n'a pas acquis cet objet-là. Il a dit, s'il lui a pris un gage, et après le prêteur il a rendu le gage à l'emprunteur, va mettre, et l'emprunteur il est mort, le prêteur il peut récupérer ça, cet objet-là, des enfants, même sans avoir écrit. Répond la Gemara, ktiva le giraon. Ça sert d'avoir écrit, ça sert pour qu'il y ait un giraon. Giraon, c'est pour dire que si l'objet il a perdu de sa valeur, alors le fait d'avoir écrit auparavant que c'était l'objet qui appartenait au prêteur, eh ben la perte, ça sera l'emprunteur qui devra rembourser. Et on va pas dire que s'il y a eu une baisse d'argent, une baisse de valeur, eh ben ça sera le prêteur qui sera perdant. Non, ce sera l'emprunteur qui sera perdant. Deimara, Rabbi Ossi Ayadoresh, Lachon Ediot, Rabbi Ossi, il enseignait le langage, donc il tranchait ce langage que moi, les gens ils avaient l'habitude d'écrire. D'Etania, comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il dit, Makom shenagou la sot ktuva milva, gova milva. Un endroit où c'est l'habitude de faire la ktuva, lorsqu'on écrit la ktuva, alors la ktuva c'est donc un engagement, il a écrit l'engagement que le mari a envers sa femme, la femme elle a envers son mari, et on écrit aussi que si la femme elle amène des biens, ou ses parents, le père, le beau-père, il amène, il donne des biens pour sa fille au moment du mariage, on écrit les biens qu'elle apporte, et lorsque, s'il y a un décès du mari ou alors un divorce, la femme, elle récupère ces biens-là. Elle récupère ces biens-là, et voilà, même, elle récupère les biens qui étaient écrits dans la Ktouva. Maintenant, il y a des endroits où il y a écrit, ils écrivent que si maintenant il faudra faire le remboursement, ça veut dire qu'il y a eu un divorce ou alors il y a eu le mari il est mort. Alors il faudra rembourser comme si c'est un emprunteur. Donc entièrement comme s'il y a un emprunt de telle somme, on a écrit la somme, telle somme, c'est comme ça qu'il va se passer. Dans ce cas-là, le mari au moment du mariage, gove milva, il peut récupérer toute la somme, il peut aller demander toute la somme puisque au moment du divorce, on va lui réclamer toute la somme. Donc au moment du mariage, il peut aller réclamer toute la somme qui a été écrite sur la ktouva, dire voilà, comme ça on a convenu, il faut donner toute cette somme-là. Il peut demander du beau-père. Lire Paul, gove mertsa. Si c'est un endroit où l'habitude c'est d'écrire le double, donc au moment du mariage, on écrit le double, on écrit beaucoup pour montrer comme quoi que la femme elle a amené beaucoup de biens, une dot bien fournie, et alors c'était leur habitude d'écrire le double de ce que c'était en réalité. Dans ce cas-là, quand quelqu'un il a écrit une somme, le mari ne pourra pas réclamer, attends, c'est convenu que telle somme on a écrit. Non. Le mari pourra réclamer que la moitié. Gové Mertza, il pourra prendre que la moitié. Et dit la Gemara, Nerbela et Gavutilta. Les gens de Nerbela, eux, ils prenaient même, ils se permettaient de prendre que le tiers, puisqu'ils écrivaient trois fois plus que ce que c'était là, ce qu'ils voulaient donner. Donc le fiancé, le marié, le jour du le marié, il pouvait récupérer de ce qu'on lui avait promis que le tiers. Dit la Gemara, par contre, Marie, elle ramène un avis qui ne disait pas comme ça. Marie, Mar, Magbé, Nami, Shifra. Marie, il faisait récupérer aussi le plus, ça veut dire tout. Même quand quelqu'un il avait écrit le double, et ben le marié, il pouvait reprendre tout ce qui avait été écrit là-bas. Tout ce qui avait été écrit dans le contrat. Dans la Ktouva. Amar, les Ravina, les Marie, Mar, sur ce Ravina, a dit à Marie, Mar, Ve'atania, lire Paul, Gove, Mertza. Il a dit pourtant, il a écrit dans la Braïta que si l'habitude c'est d'écrire le double, C'était un endroit où ils avaient l'habitude d'écrire le double. Alors pourquoi ils disaient que le marié il peut tout récupérer? Il y a écrit dans la Braïta que c'est un endroit où on a l'habitude d'écrire le double. Alors le mari il peut prendre que la moitié, puisque quand quelqu'un il a écrit une grande somme, en vérité c'était que. Ou une petite somme, ça change rien. La somme qu'il a écrite, c'était qu'il voulait s'engager à donner la moitié. Ce n'est pas une question. Une fois on parle qu'il avait acquis, une fois donc qu'il avait fait une acquisition, un acte d'acquisition pour montrer le sérieux, le père de la mariée qui s'est engagé à payer de l'argent, il avait fait un acte d'acquisition. Et une fois on parle qu'il ne s'était pas engagé, donc quand il ne s'est pas engagé, alors là effectivement, c'est comme l'habitude. Si l'habitude c'est d'écrire le double, alors l'engagement n'a été fait que sur la moitié. Mais si l'habitude, mais s'il s'est engagé sur cette somme-là, eh ben il s'est engagé sur la somme en question. Raconte la Gemara sur ce. Ravina, Mashbar, Vektiv, Lebarté. Ravina, il a écrit beaucoup. Il a écrit comme l'habitude, donc comme le double. Et il a écrit pour sa fille. Amroulé, ils lui ont dit, son gendre, enfin les beaux-parents de sa fille, quoi, l'autre famille, ils lui ont dit, Nikneminé, démarre. Peut-être vous allez faire un engagement, que vous faire une inquisition, comme quoi vous montrez que vous êtes sérieux sur cette somme-là. Amroulé, il leur a dit, non. Il leur a dit, soit je fais l'engagement, si vous voulez que je fasse un engagement, alors on n'écrit pas le double. Et si vous voulez qu'on écrive le double, on ne fait pas d'engagement. Parce que, comme on a expliqué, que l'habitude c'est d'écrire le double, mais quand on fait l'engagement, ça oblige à payer le double. Il leur a dit, Imakna l'omirpal, si on fait une acquisition, alors je ne veux pas qu'on écrive le double. Imirpal l'omikna, si on écrit le double, alors je ne fais pas d'acte d'acquisition. Raconte la Gemara, Haou Gavra de Amar Lehu, il y a un homme qui leur a dit, Havou. La Arba me azuzé le bar dit donner 400 pièces à ma fille. Donc c'était un homme qui était juste au point de mourir et il disait plein de choses. Entre autres, il leur a dit donner 400 pièces à sa fille. Il voulait donner 400 pièces à sa fille. Bektuvata pour sa ktuva. Pour qu'elle puisse, pour sa ktuva, donc en tant que dot, il voulait donner 400 pièces. Maintenant, c'était un endroit où ils avaient l'habitude d'écrire le double. Alors ils n'ont pas compris. Et ça, il fallait prendre ces 400 pièces, il fallait enlever ça de l'héritage, du partage de l'héritage. Maintenant, il ne savait pas, est-ce qu'il voulait qu'on donne 400 pièces à la fille et donc écrire 800 pièces sur la Ktouva, ou écrire 200 pièces, écrire 400 pièces et en vérité donner simplement 200 pièces. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Shalach, Ravacha, Bere, Derav, Avia, Lekame, Deravashi. Ravacha, le fils de Ravavia, il a envoyé ses questions devant Ravashi, il lui a demandé. Arba mea dinun tmane mea. Est-ce qu'on va dire c'est 400 qui sont en vérité? Donc il faut 400, il veut vraiment qu'on donne 400 pièces à la fille qui sont en vérité, qu'on va. Pas en vérité. En vérité, c'est 400 pièces et que on va écrire 800. Ou arba mea zuze dinun matan. Ou alors 400 pièces. C'est ce qu'on écrit, mais en réalité, on donne que 200. Amar Ravashi, sur ce Ravashi, il a dit Chazinan, on regarde. I amar havula arba mea zuze dinun tmane mea. S'il lui a dit, si le père, au moment de mourir, il leur a dit, donnez-lui à la fille, donnez-lui. Donc, quand il a dit 400 pièces, c'est 400 pièces qui sont 800. Il a dit de donner 400 pièces, donc il faut donner 400 pièces et écrire 800. Par contre, il y a marre, Ktouvoula, si le père, il a dit, écrivez à la fille 400 pièces, donc c'est 400 pièces qui sont 200. Arba mea zuzé de Inoun Matan, ce sont 400 pièces qui sont 200. Il y en a qui disent Amar Rav Ashi, que Rav Ashi il a dit Chazina non regard. I Amar Liktuvata Arba Meazuze Dinunt Manemeaz. Si le père avant de mourir il a dit donner 400 pièces pour sa Ktuva, pour. Donc là, ça sera vraiment 400 pièces qu'il faut donner pour la dot. 400 pièces et on écrira 800. Vi Amar Biktuvata. Et s'il a dit donner 400 pièces. Dans sa ktouva, c'est comme ça que vous allez écrire. Donc, quand il a dit 400 pièces, c'est en vérité donner simplement 200 pièces. Écrire 400 pièces, c'est donner 200. Arba me azuzé de inun matan, il voulait dire donner 400 pièces et mais écrire 200. Écrire 400 pièces et donner 200. Par contre, diagma, mais on ne tranche pas ainsi. Velohi, ce n'est pas comme ça. Loshna de amar lektuvata, veloshna de amar biktuvata. Ça ne change pas s'il lui a dit pour la ktouva. Ou alors il lui a dit dans la Ktouva, dans tous les cas, Arba mea zuzé deinun matan. C'est 400 pièces qui sont 200. Donc quand il lui a dit 400 pièces, c'est ce qu'il faut écrire et on donnera 200. Adama ravula stama. Sauf s'il lui a dit donnez simplement. Donner, sans, il n'a pas dit simplement. Il a dit ça, il a simplement dit donner, donnez-lui. Sans dire donnez-lui pour la Ktouva. Quand il dit pour la Ktouva, c'est vraiment c'est 400 pièces, d'écrire 400 pièces, mais on n'écrit que 200. S'il ne dit pas pour la Ktouva, il dit donnez 400 pièces à ma fille, comme ça il a dit, alors il faudra donner 400 pièces vraiment. Raconte la Gemara, Aou Gavra Dekabel Ar'a Mechavri. Il y a un homme qui a reçu un terrain pour travailler en tant que métayer. Donc il devait recevoir un pourcentage pour lui et un pourcentage pour le propriétaire. Amar, alors le métayer, il a dit au propriétaire du terrain, Imovranale la yahivna lecha alfazouze. Si je ne vais pas m'occuper du champ, je vais le laisser comme ça, je te donnerai 1000 zouz, une grande somme. Ovir tilta. Au final, il sait pas, il a laissé un tiers du champ. Donc il y avait trois parcelles par exemple dans le champ. Il a fait que deux parcelles dans le champ et une parcelle qu'il ne s'est pas occupée du tout. Et donc le propriétaire du terrain, il réclame, il dit, à cause de toi, si je savais, j'aurais pu faire travailler quelqu'un d'autre sur ce tiers de champ, ou alors j'aurais donné à quelqu'un d'autre la totalité du champ, et j'aurais gagné, j'aurais eu, puisque moi je suis payé au pourcentage, j'aurais plus gagné. Toi, tu t'es engagé à me donner 1000 pièces si tu ne travailles pas pour le terrain, tu laisses le terrain tout vide, tu as laissé un tiers du terrain vide, tu me donnes 330, un tiers quoi, 333, et un tiers. Ovir Tilta, il a laissé un tiers de côté sans travailler. À Brénéardé, les gens de Néerlaise ont dit, les sages de Néerlaise ont dit, la loi, c'est qu'il doit lui donner 333 et un tiers. Rava Amar, par contre, Rava, il a dit Asmartahi. Non, Rava n'est pas d'accord. Rava, il dit, on a un cas de Asmarta. Asmarta, c'est quand quelqu'un il s'engage à donner, s'il y aura telle chose, il s'engage à donner des grands engagements, des engagements pour montrer qu'on peut lui faire confiance, que ça ne va pas se passer de cette façon. Et après, finalement, si la confiance n'a pas eu lieu d'exister, mais en tout cas, ça s'est passé comme il a dit, l'engagement ne marche pas. Comme ça, Rava, il tranche. Vasmarta Lokanya. Point de mal à Rava. D'après Rava, pourquoi Rava, il dit que ça ne marche pas? Donc, l'engagement qui s'est dit, je n'ai tant de pièces, ça ne marchera pas. Maïchna, que ça change de ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Imovir velo avid. HLMB mitva, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, qui a écrit que si le métayer, il a dit au propriétaire, si je vais laisser le champ et je ne vais rien faire avec, alors je te payerai avec une bonne somme. Répond la Gemara. Atam lo kagazim. Acha kivan de amar milta yeterta, guzma baalma ou de kagazim. Répond la Gemara. Là-bas dans la Mishnah, on parle, il n'a pas d'exagéré. Il a dit qu'il payera. Il payera la perte. Donc c'est normal. Il a dit, s'il va causer une perte, il dit je te payerai la perte. Il n'y a aucune exagération. Dans ce cas-là, oui, c'est sûr, l'engagement, il marche. Mais là où il dit, tu sais quoi, tu peux me faire confiance, si tu vas perdre, je te donnerai 10 000 euros en plus. Il a exagéré, il a voulu lui montrer que tu peux me faire confiance. Mais il ne voudrait pas, en vérité, s'engager à lui donner une telle somme. Et donc, ce n'est rien du tout. Raconte la Gemara, Haou Gavra de Kabil Ar'a Leshoum Shemé. Il y a eu un homme qui a reçu un terrain pour planter du sésame. Maintenant, le sésame, ça coûte cher, plus cher que le blé. Mais ça abîme la terre plus que le blé. Donc il est censé bien abîmer la terre et recevoir plus d'argent que le blé. Zarahite, mais lui, il a décidé de faire pousser du blé et pas du sésame. Avdahite kishum shemé. Et le blé, il était de bonne qualité et c'est arrivé au même prix. Il y a eu une augmentation du blé aussi. C'est arrivé au même prix que le sésame. Donc maintenant, le propriétaire du blé n'a rien perdu de ça. Au niveau de l'argent, il peut avoir le même argent que s'il y avait eu le sésame. Mais au contraire, le propriétaire du terrain, il a gagné que son terrain n'a pas été affaibli en plantant du sésame. Ça va, Rav Kahana, les mêmes, Rav Kahana pensait dire, Menakele, Karchadara, il peut lui déduire la perte, la baisse du terrain. C'est-à-dire, le propriétaire du terrain va perdre, va moins recevoir que prévu, ce que le terrain aurait dû descendre de valeur. Si le terrain, il aurait dû descendre un peu, être affaibli, je ne sais pas comment exactement on va évaluer, mais on évalue qu'il aurait affaibli, il aurait perdu 1000 euros. Donc là, celui qui a travaillé le métayer va donner en moins que ce qui est prévu 1000 euros. Amar les Ravashi, les Rav Kahana, si ce Ravashi a dit Rav Kahana, Amrin, chez les gens disent, Karsha'ara, velo les Kroshmara. C'est préférable que le terrain il va s'affaiblir plutôt que de faire affaiblir le propriétaire et ne pas lui donner son salaire qu'il a l'habitude. J'ai quelqu'un qui a un terrain, même il est prêt des fois à recevoir un plus grand salaire, plutôt que d'avoir que d'abîmer son terrain, s'il a besoin, donc il veut pas abîmer. S'il avait prévu de faire du sésame, c'est qu'il avait besoin d'argent, et il voulait avoir l'argent du sésame, et même et il veut pas recevoir moins, et que le terrain ne s'abîme pas. Akon une autre histoire. Haou Gavra, il y a un homme des Kabyles Aral et Choumchémé qui a reçu un terrain pour planter là-bas, donc il y a un métayer qui devait s'occuper d'un terrain pour planter du sésame, recevoir une partie et donner une partie au propriétaire. Zarachite, il a planté du blé. Avdachite, tfemin raconte la Gemara, et cette année-là, le blé, il a plus profité que, encore plus que le sésame. Il y a eu sûrement, il devait avoir une pénurie de blé, et il y a eu plus de profit. Le blé, ça se vendait plus cher que le sésame. Donc, lui, il a vraiment fait gagner au propriétaire. Un, le terrain, il coûte moins cher. Le terrain, il coûte. Il n'a pas été abîmé en y plantant du sésame. Et deuxièmement, le blé, il gagne. Il coûte plus cher que le sésame. Alors maintenant, sur ce plus-là, que le blé, il coûte plus cher que le sésame, ça, Ravina a dit peut-être que ça, le propriétaire n'a pas à recevoir. Ça va, Ravina, les mémas. Ravina pensait dire il y a Yves les chiffres des béné-béné. Que le propriétaire du terrain, il doit donner le plus, il doit le donner au métayer, c'est-à-dire il ne doit pas prendre pour lui le propriétaire du terrain ce plus-là. Amar les Ravacha Divti les Ravina sur ce Ravacha de Divti a dit à Ravina, à tout ou Ashbar à lo Ashbar, quoi, c'est juste le métayer qui a fait profiter le terrain et le propriétaire du terrain n'a pas fait profiter le terrain lui-même n'a pas fait en sorte que c'était des bons fruits, que n'a pas donné une part dans le blé. Il n'y a pas de raison que le propriétaire du terrain reçoive moins que le métayer, puisque c'est aussi sa part qui a amené du blé. Point. Dit la Gemara, les gens de Nerdéa ont dit, Hay Iska, cette affaire. Alors c'est quoi cette affaire? En général, quand on parle de Iska, on parle de quelqu'un qui prend un. On parle de quelqu'un qui donne de la récolte à son prochain. Et ils décident ensemble, donc ils donnent la récolte, qui coûte par exemple ici 1000 euros. Il va aller dans un endroit où il peut le vendre à 2000 euros. Et donc ils vont gagner 1000 euros. Ils vont faire moitié-moitié sur. Non, c'est pas moitié-moitié sur le. Sur le. Ça dépend sur les bénéfices, ça on n'en parle pas. Il faut que les bénéfices soient un peu plus pour celui qui a fait le travail. Mais sur les pertes, ils font moitié-moitié. Moitié pour le propriétaire, pour celui qui était propriétaire initial, et une moitié pour celui qui a fait pour le marchand. Maintenant, comment on considère ça? On considère que la moitié de l'argent qui a été donné, c'est un emprunt, et la moitié, c'est de l'argent qui a été confié pour le garder, pour l'utiliser. Donc la moitié, c'est un emprunt, c'est de l'argent qui appartient au marchand, et l'autre moitié c'est l'argent qui est encore au propriétaire initial. Donc avec ça, ils vont l'utiliser, et il y aura une part qui va exister pour le propriétaire et une part pour le marchand. Et les pertes, s'il y a des pertes, ça c'est quelque chose qui a été fait en faveur de ces gens-là. On leur a donné cette possibilité de considérer la moitié comme une milva, comme un emprunt, la moitié comme s'il lui a confié de l'argent. Dans ce cas-là, même s'il y a une perte, la perte maximale qui peut arriver, c'est jusqu'à la moitié de la marchandise. Donc comme ça, les deux, ils ne peuvent pas perdre énormément. Hayiska, cette affaire-là, Palgamil va au Palgapikadon. C'est la moitié un emprunt, la moitié d'argent qui a été confié. Avoud Rabanan Miltad, Inichale la Lové, Venichale la Malvé. Les sages, ils ont fixé ainsi. Quelque chose qui est bien pour l'emprunteur, celui qui reçoit l'argent pour le marchand, qu'on a appelé ça le marchand, l'emprunteur qui reçoit l'argent pour faire des affaires avec, ou qui reçoit la marchandise pour travailler, et aussi qui est bien pour celui qui a donné la malvée, le prêteur. Mais dit la Gemara, dit Nerdé, Ashtad Amrinan Palga Milva, maintenant qu'on a dit que la moitié c'est un emprunt, donc la moitié de cet argent-là, l'argent ou de la marchandise, le marchand, il peut décider de l'utiliser pour ses propres besoins. Il n'est pas obligé d'en faire des achats avec. Iba Shira, Shapir Dami. S'il veut boire de la bière avec ou faire n'importe quelle chose qu'il veut, il a le droit. Par contre, Rava a dit non. La rikaroulé iska. Pour ça, on l'a appelé une iska, une affaire, et pas simplement un emprunt. De amarlé, car celui qui a donné l'argent, il peut dire, qui a ivnalecha le asukebe. Quand je t'ai donné cet argent, c'est pour tout travail avec. Véloli et pas pour que tu boives de l'argent, boives du vin. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu vas travailler pour toi, tu vas travailler aussi pour moi, comme c'est l'argent collectif. C'est pour tous les deux. Donc ma part aussi, tu vas faire gagner. Amaravidi baravin, diravidi baravin. Ve'im met, naase metaltelin tsel banav. Diravidi baravin, quand quelqu'un il a fait une affaire, donc il a donné de l'argent à une autre personne pour qu'il prenne cet argent et qu'il va faire des affaires. Et dans un an, il revient. Et moitié-moitié des pertes, s'il y a eu des pertes. S'il y a eu des bénéfices, on va voir après, c'est pas exactement moitié-moitié, mais ça dépend des cas. On peut faire, il y a des cas où on peut faire moitié-moitié, il y a des cas que non. Et une partie des bénéfices seront pour chacun. Chacun reçoit une partie des bénéfices. Comme on a dit, la moitié, c'est considéré un emprunt. Et la moitié, c'est considéré l'argent qui a été confié. Si maintenant, celui qui a reçu l'argent, le marchand qui devait faire les affaires, il est mort. Alors, sur la moitié, il y a eu un emprunt. Or, un emprunt, on ne peut pas réclamer de l'argent des enfants, sauf s'ils ont des. Si, sauf si le père, enfin, celui qui est. Oui, le père, il a fait hériter des terrains. Mais autrement, on ne peut pas réclamer des biens mobiles des enfants. Donc là aussi, sur la moitié de la somme, c'est une moitié, c'est un emprunt. Et donc, ça ne pourra pas être récupéré des enfants. Veimet, s'il est mort, celui qui a reçu l'argent, n'a assez metalteni et tsel banav. C'est comme si tout c'est devenu la moitié de la somme. Ça devient comme des biens mobiles chez les enfants qui ne peuvent pas être récupérés par celui qui a donné l'argent. Sauf s'il y a des terrains. Rava Amar, par contre, Rava, il a dit non. La rikaroulé iska, c'est pour ça qu'on l'a appelé une iska, une affaire. Des imet, loyase, metalteni, tselbanav, pour dire que s'il est mort, alors ça ne va pas devenir des biens mobiles chez les enfants. Point. Amar Rava, sur ce Rava, il a dit. Chada iska, donc déjà avant de lire la suite, on va dire par cœur, bien évidemment, on va voir après la suite dans les mots. Comme on a dit, quand quelqu'un il donne l'argent à quelqu'un d'autre pour qu'il en fasse des affaires et qu'il reprenne la moitié et qu'il se partage après les bénéfices, c'est la moitié, considérer la moitié un emprunt, la moitié de l'argent qui a été confié, qui reste encore dans la propriété du propriétaire initial, de celui qui a donné tout l'argent. Donc, quelqu'un, il va faire des affaires. Si on va dire que ils font moitié-moitié sur les bénéfices, moitié-moitié sur les pertes qui peuvent exister, dans ce cas-là, ça s'appelle, c'est comme s'il y avait un prêt avec intérêt. Parce que pourquoi l'autre, il a reçu la moitié de la somme, il a travaillé, il a reçu par exemple 1000 euros. Il a pris 500, il a tout travaillé, il a gagné 1200 euros. Donc, on considère comme s'il y a eu 500 euros de prêt, 500 euros de juste lui a confié de l'argent, il a travaillé avec ses 1000 euros et c'est devenu 1200. Donc il y a 600 euros et 600 euros. Il y a eu 100 euros de bénéfices pour chacun. Pourquoi cet homme-là, il a travaillé pour le propriétaire de l'argent? Pourquoi il n'a pas juste travaillé sur les 500 euros qui étaient à lui, qu'il avait emprunté? Pourquoi il a besoin de travailler sur 500 autres euros sans rien gagner? Ah, parce qu'il a reçu un emprunt. Ça s'appelle un prêt avec intérêt, c'est une sorte d'intérêt. Donc pour pas que ça soit arrivé à un interdit, les sages ils ont dit comme ça il faut faire. Il y a plusieurs possibilités, soit il faut lui payer ce qu'il a travaillé, soit on peut dire qu'il reçoit, comme ça ils avaient l'habitude de faire, que le bénéfice, celui qui a donné l'argent, il ne reçoit pas la moitié des bénéfices, il reçoit le tiers des bénéfices. Donc il prend la moitié des pertes, s'il y a des pertes, et le tiers des bénéfices. Très bien. Maintenant, arrive Rava et dit. Plus on divise le nombre de plus on plus il y a on divise le nombre des affaires, on dit qu'il y a eu beaucoup d'affaires, plus on montre qu'il y a eu beaucoup d'affaires, plus l'emprunteur, le prêteur peut perdre. Et plus on regroupe les affaires ensemble, plus c'est l'emprunteur qui peut perdre. On va expliquer pourquoi. Imaginons que on a fait une affaire. On lui a donné. Bon, avec l'argent, c'est difficile de diviser parce qu'on ne sait pas où se trouve l'argent. Mais on va dire, quelqu'un, il a donné deux conteneurs d'objets à vendre. Ce sont des conteneurs, ils coûtent chacun 1000 euros. On rentre pas dans les. Juste pour comprendre. Deux conteneurs, ils coûtent chacun 1000 euros. Donc il lui a donné pour 2000 euros. Si maintenant, ils vont décider d'écrire une seule contrat qu'ils ont écrit sur 2000 euros. Imaginons qu'un conteneur qui va être vendu, il y aura une perte de 150 euros. Et un autre contrat, un autre conteneur, l'autre conteneur, il y a eu un gain des bénéfices de 150 euros. Donc une perte de 150 euros, bénéfice de 150 euros. Au final, si on regarde sur le fond, il n'y a eu aucune perte, aucun bénéfice. Donc si on considère que il y a eu une affaire qui a été faite, il n'y a eu aucun perdant. Très bien. Si maintenant, on va dire que ce sont deux affaires différentes. Donc là où il y a eu 150 euros de perte, ça va être moitié-moitié. On a dit que le propriétaire de l'argent, c'est le propriétaire initial, il prend la moitié des pertes. Donc il va perdre 7, il y a eu 150 euros de perte, il va perdre 75 euros. Et par contre, sur les 150 euros de bénéfice, combien il va gagner? Juste un tiers, 50 euros. Donc au final, cet homme-là, il a perdu 25 euros. Si on a mixé en une seule fois, donc les pertes et les... Puisque, c'est normal, c'est logique, puisque le propriétaire de l'argent, il perd plus que ce qu'il gagne. Il est plus. Donc, plus on regroupe ensemble, moins il y a de risques. Parce que quand il y aura un gain et une perte, donc ils vont s'associer ensemble, alors on remarquera moins qu'il y a eu une perte. Mais si on les sépare les deux, donc comme il perd plus que ce qu'il gagne, donc la perte, elle sera plus ressentie à ce moment-là. Ou un autre cas, imaginons qu'il y a eu une perte de 50 euros dans un des conteneurs et un gain de 100, 150 euros dans l'autre conteneur. Donc si on fait en séparément, on va dire sur la perte de 50 euros, chacun va perdre 25 euros et sur le gain de 150 euros, il a gagné 50 euros, le propriétaire de l'argent, il prend 50 euros et l'autre, il prend 100 euros. Donc 50 euros, il a gagné, il a perdu 25 euros sur le premier conteneur, il a gagné au final que 25 euros. Par contre, si on va dire qu'on fait un total, on va dire... On fait le total, combien il y a eu, on associe les deux. Si on regarde ensemble, comme si hein, il y a eu une perte de 50 et un gain de 150, ça veut dire qu'il y a eu un bénéfice de 100 euros. 150 moins 50, c'est 100 euros. Il reste 100 euros, il reçoit un tiers, 33 euros. Donc au lieu de recevoir 33,33, au lieu de recevoir 25 euros, il aura reçu 33, il aura reçu plus. Ça, c'est quand on les a regroupés ensemble. Donc regardons dans les mots. Amaravadi Rava, Hadaiska, une affaire. Et il y a beaucoup de choses et il décide que sur cette affaire, il lui donne une affaire, tu sais, tu vas vendre mes deux conteneurs. Et il décide de faire plusieurs, de séparer, de diviser. Vetreshtare, ils écrivent deux contrats, comme si ce sont deux affaires, psida des malvés. C'est la perte du prêteur. Le prêteur, il peut perdre, comme on a expliqué. Par contre, treiske, quand il y a deux affaires qui sont faites, vechadshtara, et un seul contrat, Psida délové. Par exemple, s'ils ont fait hier une affaire, aujourd'hui ils décident de faire une deuxième affaire ensemble, et ils décident d'associer et d'écrire un seul contrat. Dans ce cas-là, c'est le lové, l'emprunteur qui est perdant. Comme on a dit, parce que lui, plus on divise, plus les pertes, si elles vont exister, elles ne vont pas s'associer avec les gains. Et donc, lui, il gagne plus que ce qu'il perd. Qu'il gagne deux tiers, et il perd la moitié. Alors, ce sera l'emprunteur qui sera perdant. Pourquoi Rava nous dit ça? Pour dire que ce qu'il faut faire, c'est quand il y a une affaire, on écrit un contrat. Deux affaires, on écrit deux contrats. Mais pas la peine de rajouter le nombre de contrats. Pas la peine de diminuer, sinon chaque fois, quelqu'un qui est perdant. Voilà. On va s'arrêter ici, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée. Be'atzlacha. Et à bientôt.